On va commencer avec le chapitre 48. En hébreu, 48, ça se dit Memchet. Page 344. Memchet, en hébreu, ça veut dire Moach, l'intellect. Ça fait quelques mois, on avait étudié le chapitre 32. 32 en hébreu, Lamed Bet, Lev, le cœur. Et c'est pour ça que le chapitre 32 du Tanya, 32 est égal lève le cœur, nous a parlé de l'amour du prochain. Ce chapitre, 48 est égal Moar, le cerveau, va nous parler de l'intellect, va nous parler de la réflexion. Dans ce chapitre, on va toucher à une composante très importante de la Chassidout Rabbad, qui est la réflexion. L'importance de la réflexion. En hébreu, la réflexion, c'est Itbonenout. Itbonenout, la réflexion. Vous allez voir comment on va nous montrer que dans le judaïsme, on ne peut pas se suffire que d'action et d'amour. Et beaucoup de gens pour lesquels le judaïsme se résume à de l'action, ça veut dire je fais ci, je ne fais pas ça, c'est de l'action, d'accord ? Et éventuellement de l'amour et de la crainte. Ça veut dire je développe un sentiment d'amour envers Dieu ou un sentiment de crainte envers Dieu. Mais on n'a pas forcément une relation intellectuelle avec Dieu. On n'a pas forcément de relation dans laquelle je réfléchis et je me situe par rapport à ça et je me pose des questions. Et une des particularités de la Chassidout Chabad, Chabad en hébreu ça veut dire intellect, c'est que justement on accorde une place très importante à l'intellect. D'où l'importance du chapitre d'aujourd'hui 48, qui est le chapitre dans lequel on va parler de l'intellect. Alors, quand je parle d'intellect, je vais d'abord faire une introduction parce que c'est un chapitre très important, comme tous, mais... Quand on parle d'intellect, il y a deux types de réflexion. Et d'ailleurs, on le verra dans la suite. Il y a une réflexion qui est un but en soi, et il y a une réflexion qui est un but de mener à l'action. Ça veut dire comme ça. Il y a des fois des gens qui sont intellectuels, que dans la vie de tous les jours, ils ont une vie complètement dépravée. On a beaucoup d'exemples d'intellectuels comme ça, qui sont complètement dépravés. Mais ça ne leur empêche pas d'être des intellectuels. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont la réflexion pour la réflexion. Évidemment, ce n'est pas l'approche de la Torah. Bonsoir. Évidemment, ce n'est pas l'approche de la Torah. Dans l'approche de la Torah, le but de la réflexion, c'est de mener à l'action. D'accord ? Donc ça, c'est juste en préambule pour expliquer que dans ce chapitre, on va parler de réflexion, mais pas une réflexion purement intellectuelle, une réflexion qui a pour but de mener à l'action, de faire en sorte que le cerveau va nous aider à dominer le cœur. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Pour illustrer quel est le rôle, d'après la Torah, quel est le rôle de la réflexion, quel est le rôle de l'intellect. Puisqu'on commence chapitre 48 qui veut dire Moach, Memchet est égal Moach, l'intellect. Quel est le rôle de l'intellect d'après la Torah? C'est une histoire que raconte Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak, rabbi précédent de Lubavitch. Il raconte que avant qu'il devienne rabbi, alors que son père était le rabbi, donc le rabbi Shalom Ber, donc là je vous parle de deux rabbis de Lubavitch en arrière, le rabbi Rachab avait une... D'ailleurs, ce soir, on rentre dans la... Ce soir, on est dans la Iloula du rabbi Rachab, ça tombe bien. Le rabbi Rachab, dont on célèbre ce soir le 2 hier, sa Iloula, il avait une santé très fragile. Et plusieurs fois, il devait partir faire des... Il devait partir pour sa santé, il devait aller voir des docteurs. Notamment, il devait faire plusieurs cures. C'est pas des cures dans lesquelles il passait son temps à se prélasser. T'es à l'assaut, je ne sais quoi. C'était des cures dans lesquelles il devait faire des cures thermales dans lesquelles son corps avait vraiment besoin de ça. D'ailleurs, il est parti très jeune, il avait une santé extrêmement fragile. Et on raconte qu'une fois, donc il est parti à Vienne. Il est parti à Vienne dans le cadre de sa thérapie. Il est parti à Vienne. Il a rencontré là-bas un des grands professeurs. A priori, c'est Freud. D'accord ? Donc le rabbi Rachab qui rencontre Freud. Et a priori, hein. Mais en tout cas, le rabbi précédent n'a pas dit que c'était Freud. Pas dit que c'était Sigmund Freud, mais a priori c'était Freud.
C'était à Vienne.
Et donc le docteur, donc évidemment il n'avait aucun problème psychiatrique, grâce à Shalom, ou psychologique, mais c'était un docteur qui devait l'aider à gérer son emploi du temps, médicalement. Alors le docteur pose la question au rabbi Shalom Ber. Il lui dit, pour vous donner des conseils, donc c'est une sorte de coach, j'ai besoin que vous me donniez votre programme. Votre programme dans la journée. À quelle heure vous vous levez? À quelle heure vous mangez? À quelle heure vous étudiez? Bonsoir. Venez, installez-vous. À quelle heure vous mangez? À quelle heure vous étudiez, etc. Alors, Évidemment, le Rabbi Schallenberg répond, le nombre d'heures qui passent par jour à étudier la chassidoute.
Oui.
Le nombre d'heures qu'il y a des livres, le nombre d'heures qui passent et le nombre d'heures, etc. Et à un moment, Freud lui pose la question, il dit, mais qu'est-ce que vous étudiez? Bon, c'est un juif, Freud, il sait ce que c'est, la Torah. Enfin, je sais pas s'il connaît la Torah, mais il dit, qu'est-ce que vous étudiez? Alors, il lui dit, j'étudie la Torah, et en particulier, la doctrine de la chassidoute. Et Freud lui pose la question, Rabbi Schallenberg, il lui dit, mais c'est quoi la chassidoute? C'est quoi la chassidoute? Et le Rabbi Rachab répond, c'est son fils qui nous raconte ça, hein, dans ses mémoires. Il raconte, il dit, le but de la chassidoute, c'est que l'intellect explique au cœur qu'est-ce qu'il faut vouloir et qu'est-ce donc qu'il ne faut pas vouloir. Et le cœur doit mettre en pratique dans la vie de tous les jours ce que le cerveau a compris. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Le cerveau et le cœur, donc je ne parle pas d'une réflexion qui est une réflexion intellectuelle mais qui est détachée de la réalité, c'est une réflexion qui doit mener à l'action. Sauf que Freud a posé la question au Rabbi, il lui dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut faire en sorte que le cerveau explique au cœur ce que le cœur doit faire? Le monde du cerveau et le monde du cœur sont deux mondes complètement différents. L'intellect et les sentiments, ce sont deux mondes différents. Et pour reprendre les termes de Freud, il y a un océan énorme qui les sépare. D'accord? Comment c'est possible? Alors le Rabbi Schallenberg répond, il dit, le travail de l'homme, c'est quoi? C'est de construire justement un pont entre ces deux planètes, entre ces deux îles, si je pourrais dire, d'accord? Ou au moins, je reprends ces termes, de tirer des fils, alors de téléphone ou d'électricité, c'était les notions qu'on connaissait à l'époque, de façon à ce que la lumière du cerveau arrive jusqu'au cœur. Pour comprendre cette réponse du Rabbi Rachab à Freud, il va nous falloir un chapitre entier, parce que vous comprenez ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'il lui a dit, idéalement, ce qu'on aurait aimé, c'est construire un pont. Un pont entre le cerveau et le cœur. Que le cerveau décide, et le cœur se comporte comme le cerveau a décidé. Si on n'arrive pas à faire un pont, il faut au moins tirer des fils. Des fils entre le cerveau et le cœur, comme ça, il y a une sorte de communication.
Connexion entre les deux.
Voilà, une communication entre les deux. C'est pas qu'il y a deux mondes différents, et comme on a vu, t'es tellement d'intellectuel, que le cerveau était, l'intellect était une chose, et le cœur, la vie du cœur, leur vie de tous les jours était une catastrophe. Ouais, d'accord? On sait qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais il y a un exemple qui est très connu. On dit comment il s'appelait, Rav Maïmonide le citait souvent. Comment il s'appelait ce grand penseur? Rav Maïmonide le citait souvent. Ah, son nom m'échappe. Bon, il me reviendra. C'est un grand penseur que Maïmonide citait souvent. Non, c'est pas Galiléo, c'est passé à deux secondes.
De quoi?
De l'époque, non, longtemps, ça fait longtemps. Monsieur Benita, vous donnez le nom. Hein? Un mais grec, je crois.
Est-ce c'est un juif? C'est
non, 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 un grec.
C'est un grec.
Ouais, non, oui,
un grec.
Le nom, il m'échappe. Non, mais bon.
Aristote.
Alors écoutez, voilà ce qui se passe. C'est qu'on raconte qu'Aristote, dans la vie de tous les jours, il avait une vie qui était dépravée de chez dépravée.
Ah bon?
Ah oui, bien sûr. Catastrophique. Et pourtant, dans ses écrits, il parle de choses très raffinées. Il parle de l'homme, comme, bon, c'est très très fin. Et on raconte que ses élèves, une fois, lui ont posé la question. Ils lui ont dit, mais comment vous pouvez avoir une conduite dans la vie de tous les jours qui ne correspond pas à ce que vous nous professez? Comment c'est possible? Et elle leur a répondu, elle leur a dit, quand je vous parle, je suis Aristote, et quand je suis dehors, je suis plus Aristote. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple d'une personne qui a un clivage, enfin, qui a une séparation complète entre ce qu'elle a dans sa tête et ce qu'elle a dans son cœur. La chassidoute, c'est exactement le contraire. La chassidoute.
Ah ben, c'est là. On peut séparer les deux.
Non, les deux sont séparés, par définition. Le cerveau est un monde qui est raffiné, est un monde dans lequel tout est contrôlé. Le cœur est un monde dans lequel, par définition, rien n'est contrôlé. On se laisse aller. Et c'est un effort constant de dominer le cœur avec le cerveau. C'est un travail qui est très compliqué. C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui.
C'est plutôt le cerveau qui doit dominer le cœur. Et non pas le contraire. C'est plutôt le cerveau qui doit dominer le cœur et non pas le contraire. Parce que quand on réfléchit avec son cœur, on fait des conneries. Et quand on réfléchit avec sa tête, ben on a réfléchi avec.
Oui, mais je vais expliquer. Le problème, j'entends très bien votre question, mais le problème est comme ça. Oui. C'est que on vient à un cours. Donc là, c'est notre réflexion qui travaille. D'accord. Ensuite, vous allez rentrer chez vous à la maison. c'est plus votre réflexion qui va parler là-bas. Vous allez rentrer chez vous à la maison, je sais pas, peut-être un enfant ou votre femme ou quelqu'un va vous dire quelque chose et vous allez avoir une réflexion, vous allez avoir une réaction qui ne correspond pas à ce que vous venez d'étudier. Et ça vous dérange parce que vous dites mais comment ça se fait que mon comportement, je parle de moi, je parle de tout le monde, comment ça se fait que mon comportement est en décalage par rapport à ce que j'étudie. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que je n'ai pas réussi à faire descendre la réflexion dans l'action. La réflexion, en théorie, tout était clair. Mais dans la pratique, j'ai pas réussi à faire descendre. Et c'est ça le rôle de la chassidout. Le rôle de la chassidout, c'est le mohar qui agit sur le lève. Le cerveau, l'intellect, qui agit sur le cœur. Et enfin, pour terminer ce qu'a dit le Rabbi Rachab à Freud, il lui a dit que je dois vous dire, comme ça il lui a dit, je dois vous dire que le cerveau et le cœur des chassidim, avec le travail qu'ils ont fait, sont capables de le faire. Ils sont capables de marier le cerveau et le cœur. Freud était incapable de comprendre. C'était une énigme pour lui. Parce que vous savez que Freud, je vais pas rentrer je ne suis pas là pour parler de Freud aujourd'hui, mais vous savez que Freud, dans sa façon de voir les choses, l'homme est un animal. Freud, d'après Freud, l'homme est un animal. Et il ne changera jamais. C'est vrai.
C'est vrai.
Mais bien sûr. Freud, il va te dire par exemple que, un animal qui est raffiné, mais c'est un animal. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il va analyser l'homme par les rêves, etc. Parce que l'homme, c'est un animal. L'homme, c'est un être instinctif comme tous les autres êtres créés. Et lorsqu'il entend ce mot du Rabbi Rachab, qui est finalement était impatient, mais là, il lui largue une bombe. Il lui dit, mais attendez, il faut marier le monde de la réflexion et le monde du cerveau, le monde du cœur. C'était un scoop. C'était extraordinaire. Et on dit comme ça. On dit que, pour continuer dans l'introduction de ce chapitre, il y avait deux grands chassidim qui étaient connus chez les chassidim comme des grands maskilim. Maskilim, c'est-à-dire comme des grands penseurs, des très grands penseurs. Des penseurs chassidiques. Et ils disaient comme ça. Ils disaient, les plus grands penseurs de ce monde, même ceux qui ne sont pas juifs, s'ils découvraient et s'approfondissaient dans les explications extraordinaires de la chassidout, ils abandonneraient tous les plaisirs de ce monde. Comme ça, il disait Rabbi Hillel de Paritch aussi. Il disait que même les plus grands baletavas, c'est-à-dire les plus grands hommes qui ont des désirs et des la passion, s'ils touchaient à la chassidoute, s'ils touchaient à la Torah, et s'ils savaient la douceur que c'est de faire une prière avec la douceur et avec la parole du cœur, eh ben, ils abandonneraient tout leur plaisir. Ça veut dire qu'en vérité...
On parle à un juif.
Ça veut dire qu'en vérité, la Torah a cette capacité de te donner un plaisir concret que ton cerveau peut convaincre ton cœur que c'est intéressant pour lui. D'accord. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce chapitre. Comment, justement, avoir Itbonenout, comment réfléchir. Alors, je voudrais terminer l'introduction de ce chapitre, on va commencer dans les mots. Je vais donner des exemples, parce qu'il faut toujours donner des exemples, et jamais donner des exemples. Mais les exemples vous n'êtes pas obligé de les prendre au mot. Moi, je vais vous donner des exemples qui me parlent, qui me correspondent, et je vais essayer de les correspondre à chacun. Mais si, par exemple, dans un exemple, je parlais d'un chassid qui va réfléchir avant de commencer à prier pendant une demi-heure, ou bien si je vais vous parler d'un chassid qui, en plein milieu de son schéma, il va s'arrêter pendant un quart d'heure en plein milieu de son schéma juste pour réfléchir à une idée, ça ne veut pas dire que vous devez forcément en faire autant. Ça ne veut pas dire que vous devez réfléchir un quart d'heure. C'est simplement un concept que je vous explique, avec des exemples qu'on va donner, mais un concept. Et la réflexion peut durer même 30 secondes. Ça veut dire que, quitte même si on pourrait faire un effort demain matin, même ce soir, avant de faire notre schéma, ou demain matin, quand je mets les tefilin, vous savez, on est dans un monde d'action, c'est tac, 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 mets les tefilin, pac, et prie, etc. Si juste on faisait l'effort de se poser juste 30 secondes, de réfléchir, de dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ce que je fais là? Qu'est-ce que quoi je fais là? Prends des lanières de cuir, je les mets sur moi, c'est quoi ce délire?
Je me suis posé la question une fois, c'est fini.
Non, mais justement. Monsieur Benita, c'est pas une question pour une réponse. J'essaie de me situer. C'est une réflexion. C'est pas une question que j'ai, la réponse je la connais. C'est pas une question pour une réponse. J'essaie de me situer. J'essaie de me mettre sur le rail. Et la réflexion est très importante. Alors, retenez bien le mot. En hébreu, pour dire la réflexion, on dit itbonenout. Itbonenout, c'est la réflexion. Avec un noun, deux noun. Itbonenout, double N. Itbonenout. H-I. Itbonenout. Maintenant, chez les chassidim Breslev, on parle beaucoup de itbodedout, avec deux D. Ça n'a rien à voir. Dans la Chassidut de Breslev, on vous parle de hitbodedut, ça veut dire le fait qu'une personne s'isole.
Qui?
S'isole.
Oui.
Pour réfléchir. Mais c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas du tout ça qu'on parle. C'est-à-dire, si vous allez parler de Tzadikim, vous allez dire, ah, j'ai appris ça dans la Chassidut de Breslev, ça n'a rien à voir. Dans la Chassidut de Breslev, on vous parle de l'importance de hitbodedut, de l'isolement. Alors que dans le Tanya, on vous parle beaucoup de l'importance, surtout maintenant, de l'importance de hitbodenut, double N. Hitbodenut, la réflexion. On va expliquer, on va donner des exemples concrets. Comment un homme peut réfléchir. Enfin, je voudrais terminer dans l'introduction pour expliquer comment la réflexion est un signe messianique, puisque Maïmonide dit comme ça, il dit, n'importe quel homme qui sera attiré par n'importe quelle faute, s'il réfléchirait sérieusement qui est Dieu, et qui lui il est par rapport à Dieu, tout de suite, avec une bonne réflexion, ça l'arrêterait tout de suite de faire sa avéra, de faire sa faute. C'est-à-dire que Maïmonide dit clairement, il dit que la simple réflexion, le simple fait de réfléchir et de se situer par rapport à Dieu, mais une réflexion sérieuse, pas une réflexion hypothétique ou théorique, une réflexion concrète, ça pourrait l'empêcher. Et ça, c'est une préparation à Mashiach. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va changer lorsque Mashiach va venir? Ce qui va changer lorsque Mashiach va venir, c'est qu'on va réfléchir. Maïmonide dit, on sera occupé à quoi lorsque Mashiach va venir? On fera quoi toute la journée? T'auras plus besoin de travailler, tu pourras travailler si tu veux, t'auras plus besoin de travailler puisque t'auras tout ce que t'as besoin. Tu feras quoi? Notre cerveau sera utilisé à plein escient. Il sera utilisé à plein escient pourquoi? Pour réfléchir constamment à Dieu. Donc si vous voulez, maintenant, comme on se prépare à Mashiach, on commence nous aussi à essayer de nous préparer à Mashiach en réfléchissant. Il faut savoir qu'en 2000 ans d'histoire, depuis qu'on est en exil et même avant, les gens réfléchissaient très peu. Un juif classique ne réfléchissait pas. Il agissait. Il mettait les tefillines, il faisait son Shabbat, il transgressait pas le Shabbat, mais c'est des actions, tout ça. Et là arrive la Chassidut. La Chassidut t'explique, elle te dit, puisqu'on s'approche de Mashiach, et en plus les épreuves sont difficiles, on a besoin de réflexion. Mais pas une réflexion détachée de la réalité, une réflexion qui amène à l'action. De la réflexion à l'action. Ok? Ça c'était l'introduction. Maintenant on va commencer, Bezrat Hashem, dans les mots, chapitre 48. Donc 48 est égal Moach. Iné. Alors, je crois qu'il y avait une question, monsieur Benin. Non, il y avait des questions? Non? Ok. On va avancer un petit peu, on fera des pauses. Veiné. Kacher Ibonen Amaskin. Je suis à la page 344. On commence le nouveau chapitre, chapitre 48. Chapitre 48, oui.
Pourquoi on ne ferait pas comme quand la publicité pour vendre un produit? C'est-à-dire des rappels à l'ordre? Consommer, acheter. Alors, à force de regarder, tu regardes, tu vas consommer.
Je comprends.
De même manière, si c'est un message de Dieu, on devrait venir les gens et dire voilà, Dieu est là, quand tu fais comme ça. Tu vois, je veux dire ou pas, c'est.
J'ai très bien compris la question. Le problème de la publicité, c'est quoi? C'est que dans la publicité.
Un rappel.
Non, j'ai entendu. Dans la publicité, on parle pas à votre cerveau, on parle à votre cœur. Attendez, deux secondes. Ça veut dire, on parle à votre cœur. Donc, même si je vais réussir à t'attirer, et je le fais. Je vais réussir à t'attirer à faire une mitzvah par le cœur. D'un autre côté, il y a le yitzharara, le mauvais penchant, qui va m'attirer à faire l'avera par le cœur aussi. Donc finalement, si c'est le cœur qui décide tout, ben le cœur peut faire une mitzvah maintenant et dans 5 minutes une avera. Ça ne fonctionne pas comme ça. On doit avoir quelque chose de plus fort que le cœur.
Il faut attirer dehors le cerveau.
C'est le cerveau. Tout démarre par le cerveau. Parce que quand on arrive à attraper le cerveau de quelqu'un et qu'on arrive à avoir un cerveau qui est attaché à la réalité, qui a une influence sur le cœur, automatiquement, l'homme se maîtrise, l'homme se contrôle. Vous savez, une fois, il y a un juif qui m'a dit comme ça, qui était ici au travail. Il m'a dit, est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre un rabbin et un commerçant? Je sais pas. Hein. Il m'a dit, je vais t'expliquer. Il m'a dit, un commerçant, il te vend quelque chose que tu n'as pas besoin, mais que tu as envie. Un rabbin, il te vend quelque chose que tu n'as pas envie, mais dont tu as besoin.
C'est pas mal.
C'est pas mal comme... Tu comprends? Ça veut dire, on peut essayer de parler à ton cœur, mais au final, il faut parler à la tête. Donc, on va parler au cœur. Bien sûr qu'on va parler au cœur. Mais là, il faut pas oublier qu'on arrive à la fin du Tanya, et à la fin du Tanya, maintenant, on te dit, bon, le cœur, c'est bien beau, mais il faut parler à la tête. Alors, on y va. Veine, kacher, veine, kacher, itbonen, amaskil. Lorsque l'homme va réfléchir. D'accord? L'homme, on parle pas d'un enfant ici, on parle à Maskil. Maskil, c'est un homme réfléchi. Un homme réfléchi, un homme à qui Dieu a accordé une possibilité de réfléchir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est une génération chanceuse, dans laquelle la majorité d'entre nous ont eu accès à une éducation. Et donc, quand on veut réfléchir, on peut réfléchir. C'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de réfléchir, on a un Baruch Hashem, on a une éducation, alors même si c'est une éducation qui n'était pas forcément Kodesh, une éducation séculaire, mais dans les faits, on peut réfléchir. Mais si vous remontez dans l'histoire du peuple juif, il n'y a pas plus d'un siècle ou deux siècles, ça dépend des endroits, les gens n'avaient pas d'éducation, la majorité du peuple juif n'avait pas d'éducation. Et c'est pour ça que le chapitre 48, il est à la fin. Il dit, bon, maintenant on va parler à ceux qui peuvent réfléchir. À ceux qui arrivent à réfléchir. Parce que pas tout le monde arrive à réfléchir. Vous savez, c'est pas simple de s'arrêter et de réfléchir 5 minutes sur un concept, même une minute. Il y a des gens qui sont incapables de le faire. Ils peuvent pas. Tu peux leur dire des actions, fais ci, fais pas ci, mais dès que tu leur dis réfléchis, il est perdu tout de suite. Il dit, j'ai pas de mots. On a même du mal à comprendre ça, parce que grâce à Dieu, on est dans une génération messianique. On est dans une génération dans laquelle on peut réfléchir. Aujourd'hui, la majorité des gens réfléchissent. C'est pas, y a pas des, on n'est pas forcément des lumières, mais on peut réfléchir. D'accord? On n'est pas sévère, on sait lire, on sait écrire, on sait comprendre.
Sinon, on peut sauter le chapitre 48.
Bah, si tu te sens bête, tu peux le sauter, mais tu ne l'es pas.
Pas si on se sent bête. Là, je ne sais pas réfléchir au début. C'est parce que, comme tu as dit, on n'a pas eu une éducation.
Non, mais tu as une tête. Tu as une tête qui réfléchit.
Pas été habitué à réfléchir.
Moi, je parle de gens qui. Il faut savoir que c'est la réalité.
On parle pas vous.
Et il y a encore des pays.
Moi, je parle de moi.
Il y a encore des pays du. Il y a encore des pays du tiers-monde, mais de moins en moins, grâce à Dieu, des pays du tiers-monde. C'est comme ça, des gens, ils savent pas réfléchir.
On
leur a pas appris à réfléchir.
On leur a pas appris, et on leur a pas appris. Non,
mais nous non plus, nous a pas appris.
Mais sûr, on t'a appris à réfléchir. T'as une affaire, non? Oui, mais ça veut dire, on t'a peut-être pas appris à réfléchir dans la Torah, mais on t'a appris à réfléchir, t'as une éducation. C'est-à-dire, on t'a appris à réfléchir, t'étais à l'école, bon, peu importe ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, mais t'étais à l'école, on t'a appris à réfléchir, on t'a appris
à... Il a dit le rabbi dans le film de samedi soir, il a dit, si vous avez pas mis vos enfants en école juive,
bah oui.
Petits, quand tu leur parler de Dieu, quand ils seront plus grands, ils vont te dire, ah,
on t'a appris à structurer ton esprit.
Pas toujours.
Alors. Veine, Kacher, Itbonen, Namaski, Megdoula, Tensovan. Bon, on va avancer un peu dans les mots. Lorsque l'homme, c'est bon, on y va? Non mais encore une fois, personne n'a dit que c'est facile. Je vous dis pas que c'est facile, je vous dis pas que je le fais tous les jours. J'essaie de le faire de temps en temps. C'est pas ce qu'on va dire, c'est pas facile. Mais David, j'ai pas dit ça. Vein et Kacher Itbonen Amaskil Begdolat Ensev Baruch. Lorsque l'homme réfléchit, méditera sur la grandeur de l'infini divin. Ok,
s'il vous plaît.
Kishmo Kenhu. On va essayer maintenant de prendre. Il va nous donner un exemple concret. Un des termes qui revient le plus souvent dans la Kabbalah, quand on veut appeler Dieu, comment on appelle Dieu? Comment on appelle Dieu dans la Kabbalah? On l'appelle l'infini. L'infini, béni soit-il. Bon. Le Mora Zaken dit, tu sais quoi, puisqu'on parle à des gens réfléchis, des gens qui savent comprendre, on va prendre un mot que tout le monde répète et personne ne réfléchit. Comment on appelle Dieu? Ein Sof, infini. Bon alors ça veut dire quoi infini? Juste on va traduire le mot infini dans notre tête. C'est quoi infini?
C'est pas limite.
Alors, Kishmo Kenhu. Quand on dit que Dieu est infini, ça veut dire quoi? C'est comme tu le traduis en français.
Qui n'a pas de limite.
On va voir, d'accord? Ça veut dire quoi qu'il n'a pas de fin? Ça veut dire qu'effectivement, il est infini. Il ne se finit pas. Je vais continuer. Ça veut dire quoi?
Ein
Sof ve Ein Ketz ve Tachlit Klal, ça veut dire qu'il n'a aucune fin ni limite.
Le Or ve Chayut
amit pachet une minute barib sur la pachut. Ça veut dire quand on dit que Dieu est infini, ça veut dire que il n'y a aucune fin ni aucune limite ni aucun achèvement à la vitalité et l'énergie qui est générée par Dieu. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que mon cerveau est incapable de comprendre Dieu. Que aussi brillant je puisse être, même le plus brillant des hommes, pourra jamais comprendre Dieu. Puisque l'homme, par définition, est un être qui est fini. Donc le fini ne peut pas comprendre l'infini. C'est quoi infini? Ça veut dire que le maximum que toi tu vas pousser la barrière, on te dit c'est encore plus. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer de quel infini je parle. Parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire infini. Et il y a ce qu'on appelle l'infini quantitatif et l'infini qualitatif. Ou bien il y en a qui appellent ça aussi, t'as l'infini des mathématiciens et l'infini des philosophes. On va expliquer. C'est quoi l'infini quantitatif? L'infini quantitatif, c'est je dis par exemple, voilà, je dis, il y a 30 ans, les ordinateurs étaient capables de calculer jusqu'à 1 million. Ouais. Bon, après ils sont montés à 1 milliard, après 10 milliards, après 100 milliards, après 1000 milliards, après on a rajouté des milliards et des triards, tout ce que tu veux, etc. Bon, donc on dit que ce sont des chiffres qui vont à l'infini, on est d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle l'infini quantitatif, ça veut dire que les chiffres s'arrêtent jamais, ils sont limités ils sont limités jusqu'où l'homme veut bien atteindre. Aujourd'hui, on a des super calculateurs qui sont capables de calculer des... On n'a même pas de nom pour donner sur un calculé. Mais forcément, il y a une limite. Ça veut dire qu'il est limité. Alors aujourd'hui, on vous met plusieurs ordinateurs, des gros super calculateurs, et quand vous lisez les revues spécialisées, toutes les quelques mois, on vous dit, on a sorti maintenant un nouveau calculateur qui est encore trois fois plus rapide que celui d'avant, etc. Et avec ça, ils sont capables de prédire, de prévoir des choses. Parce qu'ils gèrent énormément de données, et plus tu gères des données, et plus t'es capable de créer des modèles. D'accord? Bon, très bien. Mais concrètement, ça reste fini. On parle toujours pas de l'infini. C'est un infini qui est peut-être parce que tu n'arrives pas à toucher le fin et tu ne toucheras jamais le fin. Mais c'est un infini qui est quantitatif. La preuve, c'est que, on va prendre un exemple. Pour dire, par exemple, pour former le chiffre 1 milliard, ben, il faut 1 milliard de fois 1. Donc le 1 est important. S'il me manque 1 sur 1 milliard, combien j'ai? J'ai plus 1 milliard. On est d'accord? Ça veut dire que c'est peut-être infini dans le sens que j'en ai encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais chaque unité de ce que j'appelle l'infini n'est pas infini. C'est un infini quantitatif. Là, je vais vous parler d'un autre infini complètement différent qui n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle l'infini qualitatif. Imaginez si je vous dis, c'est pas que Dieu il peut avoir autant de chips qu'il veut. 1, 2, 3, 4, 5, 100 milliards, 100 000 milliards, 100 milliards. Non. Dieu il est capable de te créer une matière, par exemple un chips, que ce chips est infini. Là, une matière qui est infinie. Ça, je peux pas comprendre ça. Ça veut dire comme ça. L'infini quantitatif, je peux comprendre. Je peux m'imaginer dans ma tête que Dieu, bah, tu vois, là, il y en a un, là, il y en a deux, là, il y en a 10 000, là, il y en a 100 000, là, il y en a 1 million, là, il y en a 1 milliard. Mon cerveau peut comprendre que, bon, on peut rajouter encore. Vous savez, il y a des sons qui sont dans l'espace. Ça fait 30 ans qu'ils sont en avancée. Ils sont pas arrêtés encore. C'est ce qu'on appelle l'infini. Et des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres, et des kilomètres, ils avancent. Vous savez qu'il y a des sondes radio, il y a des sondes qu'on communique avec eux par radio qui ont été envoyées il y a 30 ans. Et que pour communiquer avec eux, la NASA, elle communique par radio. Et que juste pour capter le signal que la sonde envoie, il faut attendre un mois. Ouais. Un mois pour capter le signal. Juste pour capter le signal qu'elle t'envoie, parce qu'elles envoient des images, etc. Juste pour capter le signal. Et elles avancent dans l'espace quand elles dépassent la traction terrestre. Tu avances. Jusqu'où ils vont aller comme ça? Il n'y a pas de limite. Et tous les jours, il y a des ordinateurs qui te découvrent des nouvelles étoiles qui donnent des noms. Il y a des ordinateurs qui sont là que pour ça, vous savez. À la NASA, ils ont des ordinateurs qui sont là que pour ça, pour donner des noms aux nouvelles étoiles qu'ils trouvent. Tous les jours, ils en trouvent de nouvelles. Par centaines. Et quand c'est une étoile qui est particulière, alors celui qui avait la chance, l'informaticien qui avait la chance d'être à côté de l'ordinateur, il met son nom dessus, il dit bon, ça s'appelle, je la prends pour moi, celle-là. C'est comme ça que ça fonctionne jusqu'aujourd'hui, ouais, tous les jours. Ouais, tu veux, tu vas devant, on dit vas-y, aujourd'hui on a découvert, c'est sans fin. Mais ça c'est un infini qui est quantitatif. Parce que chaque étoile en soi, elle est finie, tu peux la toucher, tu peux la quantifier, tu peux la mesurer, elle a une taille, elle a une dimension, etc. C'est pas de ça que je parle. Là on te dit, quand tu parles de Dieu, c'est pas un infini quantitatif. C'est un infini qualitatif. Ça veut dire que même une unité, tu peux pas la comprendre. C'est-à-dire tu peux même pas commencer à comprendre. Donc quand tu te mets à réfléchir à ça, tu comprends que finalement, tu es rien par rapport à Dieu. C'est pas que tu dis, bon, moi je suis petit, Dieu il est grand. Wow, c'est, voilà, je dis, moi je suis petit, moi je suis un, lui c'est 1 milliard. Non. Et quand tu réfléchis à ça, tu te mesures par rapport à Dieu. Tu dis, voilà, lui il est très 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 grand, lui c'est le grand 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 patron. Moi je suis l'employé. Mais l'employé par rapport au patron, il peut se comparer. Il dit, lui il est très grand, moi je suis très petit, mais on se compare. On est d'accord?
On peut se comparer à l'infini aussi.
Non.
Non,
mais non, justement, je peux me comparer à un infini quantitatif, effectivement, parce que l'infini quantitatif est composé de 1 et de 1 et de 1 et de 1, donc je suis un 1. Et si je n'étais pas là, il manquerait quelque chose. On est d'accord? Mais là, on parle d'autre chose. Là, je vous parle d'un infini qualitatif. C'est ce qu'ils appellent, chez les non-juifs, ils appellent ça l'infini des philosophes, ils appellent ça. Ils appellent l'infini des mathématiciens, qui est technique, d'accord, et l'infini des philosophes. Qui est un infini qui est qualitatif. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça.
Mais enfin, c'est quand même un petit peu curieux. On me demande de respecter, de faire ceci.
Non, c'est là on a oublié ça. C'est pas ça.
On n'est plus là.
On n'est pas dans l'action là.
Oui.
Non, mais je vous parle pas d'action maintenant. J'entends votre question. On vous parle pas de ce que tu fais, ce que tu fais pas. Tu fais déjà. Vous faites déjà ce qu'il faut. On te parle de ce que tu de la réflexion. Ça veut dire, on veut que tu utilises. Parce que ça, un animal, il peut le faire aussi. Lorsque je fais une mitzvah et que je ne fais que l'aspect technique, finalement, j'ai accompli la mitzvah comme un animal. Un animal aussi, tu peux le former à faire des choses, à attacher les trucs sur son pied, sur ses mains, et à respecter un programme, etc. Vous savez, un animal...
On peut le dresser.
On peut le dresser, on peut le dresser. Regardez, je lisais une histoire, il y avait une personne, tous les matins, il se levait, un yéké, d'accord, tous les matins, il se levait à 5h du matin, il prenait son âne, et il allait au boulot. 80 ans. 80 ans non-stop, tac, tac, 5h du matin. Un matin, il s'est pas levé. Il était fatigué. 80 ans. Un matin, il s'est pas levé. Son âne, il s'est levé. D'accord? Il est passé à côté de la chambre. Il a mis sa tête, il a envoyé un son pour le réveiller. L'âne, il était formé de se lever à 5h du matin. Ça veut dire, il est formé, on peut former, tout le monde peut former. Donc si je fais une mitzvah comme un âne, bah, la mitzvah, je l'ai peut-être faite. Mais on te dit, mais Dieu, il t'a créé quelque chose de particulier. Il t'a créé une tête. Il t'a créé une capacité de réfléchir. Jusqu'à combien tu utilises ta réflexion pour Dieu? C'est vrai, ma tête, je peux réfléchir. Est-ce que je réfléchis pour Dieu? Bien, je dis non, comment je réfléchirais, moi? Bah, tu m'as donné un programme, je le fais. Maintenant, la réflexion, non, je suis pas tranquille.
Oui, mais la manière dont c'est structuré, on me dit c'est un rituel, et un rituel, c'est tout le temps pareil, tout le temps.
Ben, justement, c'est faux. C'est faux. Ah ben non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ben c'est pas ça.
Toute la tefila, c'est un rituel.
Mais non, la tefila, c'est une base. C'est une base autour de laquelle vous devez évoluer. Vous croyez que Dieu, il a que ça à faire, à vous faire tourner des pages, à vous faire tourner 50 pages par jour?
C'est ce qu'il nous demande de faire.
Ah, mais là, ça vient. Il dit, vas-y, Charles Benitez, il me tourner 50 pages aujourd'hui. Allez, qui pour, tu vas me tourner 300 pages, 300 pages aujourd'hui.
Non, non, chacun, il fait la tefila, et c'est toujours la même chose.
Mais ça lui change quoi, Dieu? Qu'est-ce qu'il a besoin?
Lundi, mardi,
vous croyez que Dieu, il a besoin que vous croyez que Dieu, vous tournez des pages?
Oui, c'est intéressant.
Vous changez quoi avec ces pages, Dieu?
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire par là.
Hein? Oui, je t'apprends bien ce que tu disais sur le philosophe. Oui, c'est intéressant, il faut lire l'article.
Ah oui, non, ça, vous pouvez chercher dans Wikipédia, il y a tout un article dessus. Et l'infini des philosophes. Donc, je vais raconter une histoire pour illustrer ça. Pour expliquer pourquoi, quand on parle de l'infini, on comprend que ça nous dépasse. Le Rav Mendel Futterfass. Le Rav Mendel Futterfass, il raconte qu'il avait son mashpia, son mentor spirituel, qui s'appelait le Rav Zalman Moshe Yitzhaki. Et le Rav Zalman Moshe Yitzhaki, c'est une personne que lorsqu'il disait les chayim, il avait des réactions des fois un peu... un peu forte, d'accord. Mais il dit, de ces réactions, on apprenait des grands messages. Il fallait y avoir derrière la réaction. Il raconte comme ça. Il raconte qu'une fois, son mashpia, il a fait un fabringen, il a dit les chaïm comme il faut. Et à un moment, une fois qu'il était bien avancé, il demande à ses élèves, il leur dit, je dois parler en urgence avec mon ami, qui s'appelle le Rav Moshe Gourari. Donc évidemment, on appelle Rav Moshe Gourari, lui qui a pas dit du tout les chayim, quoi, qui est complètement sobre. Et on lui dit, écoute, ton ami le Rav Zalman Moshe, il t'appelle, il veut te parler. Bon, il comprend qu'il va s'en prendre une, c'est pas pourquoi. Mais il vient. Alors, dès qu'il arrive, alors tout de suite, le Rav Zalman Moshe, il embrasse son copain, il dit, ah, merci beaucoup d'être venu, je suis content de te voir. J'ai une question qui me dérange, ça fait des mois, faut que je la pose. Il dit, oui, bien sûr, pas de problème, avec plaisir. Il lui dit, dis-moi, toi, Moshe, mon copain, mon ami, t'es un masquille, tu sais réfléchir, toi. Est-ce que tu peux me définir, c'est quoi l'essence de Dieu? Il pose la question comme ça à son ami. Maintenant, son ami, il connaît, il sait à qui il parle, et il dit, si je vais répondre, je vais me faire déchirer. D'accord? Donc il répond pas, il dit, non, après, etc. Maintenant, son copain, alors, à la Moshe, il lui dit, non, il dit, mais... Je t'ai fait venir pour ça. Donne-moi la réponse. C'est quoi Atzmut Maout? C'est quoi l'essence de Dieu? Explique-moi quelque chose. Et son ami lui dit, non, laisse tomber, etc., etc. Et comme ça, il le tourne, il le traîne pendant plusieurs minutes. À la fin, au bout de plusieurs minutes dans laquelle il a insisté, il dit à son ami, il lui dit, Moshe, explique-moi, c'est quoi l'essence de Dieu? Et à la fin, son ami craque, d'accord? Et il lui dit, bon, voilà, je vais commencer à t'expliquer. Et dès qu'il dit, je vais commencer à t'expliquer, ça me fait, ah! Tu crois que t'as compris Dieu? Tais-toi! Ça s'arrêtait là. Il a dit, le Rav Futterfass, qui était un élève à cette époque-là, qui a assisté à ça, il a dit que cette histoire, alors après, bon, du coup, l'autre lui dit, mais alors pourquoi tu me fais parler? Il lui dit, je voulais que tu comprennes que t'as rien compris. C'est deux amis, hein. C'est deux amis qui parlent, c'est pas. Alors... Hein? Hein? Je voulais que tu comprennes. Que ça veut dire l'autre. Tu comprends? On l'a poussé devant le mur. Il a dit bon, je vais essayer d'expliquer ce que c'est l'essence de Dieu. Et dès qu'il a commencé à vouloir expliquer, et... tu crois comprendre qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait lui faire passer comme message? Il voulait lui faire passer comme message que on peut pas comprendre qui est Dieu. Et tout à l'heure, on parlait justement de l'infini. Vous savez, Maïmonide explique, je m'attarde beaucoup sur l'introduction de ce chapitre, après ça ira plus vite, parce que c'est très important à comprendre de quoi on parle.
On n'arrête pas d'expliquer.
Hein?
On n'arrête pas d'essayer d'expliquer, tu dis qu'on peut le comprendre.
Justement, mais...
Finalement, on fait quoi?
On comprend qu'on parle de l'infini. Il faut comprendre qu'on parle de l'infini.
Mais on peut parler de l'infini.
Tu veux qu'on réfléchisse?
Il parle de l'infini.
Deux secondes. Mais attendez. On va expliquer pourquoi on ne comprend pas. Je vais aller plus loin. Regardez. Donc là, déjà, ce que je vais expliquer, c'est que Dieu, c'est pas seulement qu'il nous dépasse en quantité, il nous dépasse en qualité, c'est une autre dimension. Mais je vais aller plus loin. Maïmonide explique comme ça. Il dit, il y a des choses qu'on peut comprendre directement, et il y a des choses qu'on peut comprendre indirectement. Dans les méthodes de réflexion, on appelle ça procéder par élimination. On fait beaucoup ça, par exemple, quand vous allez chez un docteur, okay, ou quand vous allez chez un garagiste. Bon, allez, on va parler d'un docteur. Il y a des choses que le docteur peut comprendre directement. Il dit, monsieur, vous avez ça. Donc, il a compris, il a ausculté, il a dit, monsieur, vous avez ça. Après, il y a des choses que le docteur... Il y a des choses que le docteur n'arrive pas à voir ce que tu as. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il procède par élimination. Ça veut dire, il dit, bon, on va essayer d'abord ça. C'est pas ça. On va essayer ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça veut dire, au moins, on sait ce que ce n'est pas. C'est déjà pas mal de savoir ce que ce n'est pas. Vous me suivez? Donc, dans les méthodes de réflexion, et ça, en philosophie, on trouve beaucoup ça aussi. Il y a une réflexion où tu essayes de comprendre quelque chose directement. Il y a une réflexion où tu n'arrives pas à comprendre directement la chose, mais tu comprends ce que ce n'est pas. Mais c'est déjà quelque chose de comprendre ce que ce n'est pas. On avance quelque part. On te dit, quand tu parles de Dieu, même procéder par élimination, tu ne peux pas. Même comprendre ce qu'il n'est pas, tu ne peux pas. Tu ne comprends rien. Vous me suivez?
Si, on peut dire.
Mais non, justement. Ça veut dire qu'on te dit, on parle d'une autre dimension. C'est pas que je comprends qu'il n'est pas comme moi. Parce que au moins, quand tu comprends qu'il n'est pas comme toi, au moins tu te situes. Tu l'as défini. C'est-à-dire, tu dis, bon, je sais pas qui il est, mais je sais que c'est pas ça. On fait beaucoup ça dans les méthodes de réflexion. Dans le Talmud, on fait beaucoup ça. Procéder par élimination. Ouais. Ça veut dire, on cherche quelque chose, on n'arrive pas à le trouver. On dit, bon, alors on va tout défricher. Bon, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça? Non, c'est pas ça. Et à la fin, bah, il te reste une porte, tu dis, c'est celle-là. Tu dis, mais puisqu'on a essayé toutes les portes et que c'était pas les bonnes, c'est celle-là. Mais procéder par élimination, même si je n'ai pas trouvé encore la bonne porte, c'est déjà quelque chose. Ça veut dire que j'ai déjà, quelque part, commencé à définir. Définir par élimination. J'ai défini que c'est pas ça. C'est pas ça.
Mais il y a des choses, déjà, on sait que c'est pas ça. On sait, on est sûr que c'est pas un homme. On est sûr que c'est pas une femme.
Oui, mais...
Voilà, j'élimine.
Ben
voilà.
Non, c'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide dit la chose suivante. Maïmonide dit que tout ce qu'on pourrait dire sur Dieu, même dire, par exemple, ce n'est pas un homme, ça veut rien dire. C'est comme si je dirais, par exemple, que la table n'est pas un homme. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. La table n'est pas un homme, ça commence même pas. Il y a un mot très fort dans le psaume 65 qui dit comme ça. C'est un mot qui est très dur même. Qui dit « Ulecha dumia teila ». Il dit « Et pour toi, Dieu, se taire, c'est ta louange ».
Se taire.
Que nous nous taisons, c'est ta louange. Ah, ouais. Ça veut dire en d'autres termes, on ferait mieux de...
Donc on ne cherche même pas à savoir.
Ça veut dire, c'est le roi David qui dit ça. Il dit « Pour toi ».
Comment il dit ça?
En se taisant, je fais ta louange.
Se taire.
Oui. En me taisant, c'est ta louange.
C'est qui? C'est Maïmonide?
Non, c'est le roi David. Et pourtant, le roi David, il parle. Hein. D'ailleurs, on va dire qu'il parle pas. Il parle. Il parle. Mais à un moment, il y a un aveu dans le psaume 65, dans lequel il dit, pour toi, le silence, d'accord, c'est ta louange. En me taisant, je fais ta louange. C'est, j'admets que ni je peux comprendre, et ni je peux comprendre que j'ai pas compris. C'est autre chose. Hein? On a dit qu'on allait réfléchir aujourd'hui. Voilà. Oui. Oui. On peut le mesurer.
Non, le papier ne peut pas mesurer.
Bien sûr.
Non.
Tu peux mesurer un papillon par rapport à un homme. C'est vrai que l'homme le dépasse.
Si toi tu es un troisième personnage,
est-ce que tu crois qu'il a ton
deux jours, il va partir dans deux jours, il va manquer.
Là, on va dire c'est un papillon.
Il va partir un mois, je vais lui manquer. La Sina, c'est la Sina. Dieu, c'est Dieu. Ah lui, c'est un livre.
C'est un cerveau.
Ah oui.
Tu te mesures par rapport à l'homme. L'homme, tu le vois pas, tu le vois pas naître, tu le vois pas
mourir. Ah oui,
pour toi, il est éternel.
Oui, mais tu peux te mesurer à lui. Tu peux dire, il vit. Je vis.
Oui.
Il évolue, j'évolue. Il meurt, je meurs. Il est composé, je suis composé. Ça veut dire, on peut trouver une comparaison, on peut trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose. Non, c'est vrai qu'il me dépasse, c'est vrai qu'il réfléchit, c'est vrai qu'il parle, mais il y a quelque chose.
Il est.
Il est, exactement. Il est, je suis, il est. Exactement. Nous sommes. Donc on est une créature. Donc on peut se comparer. C'est ce qui veut t'expliquer. Et d'ailleurs, ça, on le trouve, vous savez, on retrouve cette idée. On retrouve cette idée dans la prière du Shabbat. Dans la prière du Shabbat, dans le juste avant lequel la donne, il y a une phrase qui dit ça, qui dit que En aroch lecha Hashem Elokeinu ba'olam hazeh, ve'en zulatcha malkeinu lechaye olam haba. Rien ne peut se comparer à toi, Dieu, dans ce monde-ci. On peut pas se comparer à toi. Et il n'y a rien à part dans le monde futur. Ça veut dire que rien ne peut se comparer à toi. Ça veut dire que même se comparer, de dire lui, il est un milliard, moi, je suis un. Lui, c'est l'infini quantitatif, moi, je suis un. Tu peux comparer. On peut comparer, il y a une comparaison. Tu dis non. Même ça, on peut faire avec le cas de jour. Donc, c'est important de commencer par ça, pour comprendre que lorsque tu parles de la relation que tu as avec Dieu, c'est une autre dimension. Et même dire c'est une autre dimension, je dis ça, je parle ça, parce que je parle ça comme un être humain. Même dire une autre dimension, c'est déjà une mauvaise définition. Parce que dire c'est une autre dimension, c'est-à-dire je me définis par rapport à Dieu. Je dis, moi je suis une dimension, lui c'est une autre dimension. Donc je me suis défini par rapport à lui. Je me suis déjà planté en disant ça.
Oui.
J'ai déjà commencé à définir. J'ai défini par élimination, mais j'ai déjà défini. C'est pas bon. Dieu, on ne peut pas le définir. Et même dire qu'il est indéfinissable, c'est pas bon. Parce que si tu dis qu'il est indéfinissable, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont définissables que je connais, et lui, il n'est pas définissable. Donc c'est-à-dire que je suis en train de le définir en disant qu'il est indéfinissable. C'est pas bon non plus.
Exactement.
Tout ce que je pourrais dire, ça marche pas. Je peux même pas commencer ni à le définir, ni à le non-définir.
Ok. Comment est-ce que... Excuse-moi, mais tu nous as dit de réfléchir. On réfléchit.
Ah oui, on est là pour ça.
Alors comment on sait qu'on se plante pas en se disant que... comment dirais-je ? Toujours le même exemple. On peut dire que, dans l'exemple du papillon par rapport à l'homme, on peut dire que même si, quand on est un papillon, on voit l'homme exister, mais on peut dire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas, mais dont je sais sa présence.
D'accord.
Mais donc, je ne connais pas sa naissance, et je ne connais pas sa mort.
Oui, mais...
Parce que, dans mon temps à moi, je ne vois pas sa...
Mais je peux me mesurer à lui.
Comment je peux me mesurer ?
Je peux me mesurer ?
Comment je peux me mesurer ?
Est-ce qu'une fourmi peut se mesurer à toi ? Elle peut se mesurer ?
Mais parce qu'elle me voit, mais si elle, imagine-toi qu'elle ne me voit pas.
Je comprends, mais objectivement, elle peut se mesurer à toi.
Le papillon, il ne sait pas qu'il peut se mesurer.
Mais... Oh, t'es déjà rentré dans la même papillon ?
Par exemple, le nuage. Voilà. Le nuage, c'est un gaz. Je ne peux pas, moi, mesurer son début ou sa fin. Impossible.
D'accord.
Je ne peux pas. Donc c'est... Mais pourtant, je le vois. Je définis ses contours, je définis sa matière, je définis son volume, je définis plein de choses. Comment on sait qu'on n'a pas la bonne mesure, peut-être on n'a pas la bonne définition, je ne sais pas. Mais comment on sait qu'on ne fait pas fausse route ? C'est ça la question.
C'est une bonne question. Sa notion de repère, c'est la Torah. Oui.
On va
continuer.
Si j'accepte qu'il m'a créé, il y a un début.
Il y a un début pour moi.
Donc moi j'accepte qu'il m'a créé.
Oui.
Donc il est passé quelque part, il est venu.
Oui.
Comme si qu'il est voilà, il est là. Je me retourne, je vois hop, quelque chose qui est passé par là, mais j'ai pas vu qu'il est venu.
Ah Michel. Bon,
très bonne question. Le problème c'est que c'est une très bonne question. Le problème c'est la chose suivante, c'est que vous ce que vous voulez dire, c'est comme il y a un début pour moi, donc il y a un début pour lui.
Non.
Et donc deux secondes, c'est je vais ça. Plus loin.
Il y a déjà.
Donc quelque part, peut-être que lorsque Dieu il m'a créé, c'est le début d'une nouvelle chose pour lui. Ce qui est faux. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Parce que c'est vrai, on peut se dire, attends, Dieu, il a créé le monde. Ben, il a créé le monde, c'est un début pour lui quand même, ça.
Il a créé à moi déjà.
Non, mais déjà, même avant vous, il a créé un monde. Est-ce que la création du monde est le début d'une nouvelle ère pour Dieu ? Donc, c'est déjà une définition, ça. Dit, voilà, c'est. On te dit non, on va t'expliquer que non.
Je ne vais pas très loin, je parle des étoiles.
Non, mais je ne parle pas des étoiles, je parle de la création d'un monde. Avant qu'il crée le monde, il n'y avait pas de monde, il a créé un monde. C'est le début de quelque chose, ça, c'est une définition, ça. On peut déjà un peu se comparer.
Mais il a créé à partir de rien, donc.
Oui, donc c'est le début de quelque chose.
Non, mais rien, c'est pas le début.
Oui, mais c'est rien, c'est justement, rien, c'est déjà une définition. Rien, c'est déjà une définition.
À partir de rien, c'est.
Rien,
c'est exactement.
On dit trois fois rien, c'est déjà quelque chose.
Parce que non,
c'est
rien.
Non, on dit trois fois rien.
Je vais donner un. Je vais répondre à ta question. Je réponds à ta question.
On dit bien mieux que rien.
Qu'est-ce qu'il y avait?
Qu'est-ce qu'il a créé de ton?
Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, il est converti. Alors.
Tu le connais ou pas?
Qu'est-ce qu'il y avait avant que Dieu a créé le monde?
D'autres mondes.
Attendez, ici là, sur cette terre, qu'est-ce qu'il y avait avant que Dieu a créé le monde?
Il n'y avait rien.
Non, c'est une mauvaise réponse, rien. Parce que rien, c'est déjà une définition. Non, rien. C'est quoi rien? C'est un espace vide. Mais l'espace n'était pas créé non plus. Ni le temps, ni l'espace. Donc même dire rien, je peux pas dire rien. Parce que quand je dis rien, rien c'est une définition.
C'est pour ça qu'on dit ouais.
Rien c'est une non-existence. C'est le fait qu'il n'y a pas quelque chose. Mais rien c'est déjà une définition.
Parce qu'on dit qu'il a été créé.
Rien,
donc c'est bien de rien.
Oui mais rien c'est déjà quelque chose.
On va avancer.
C'est comme ça qu'on a traduit.
D'accord. On va continuer. Vous voyez, on n'est pas parti chercher loin. Ce que j'ai fait, j'ai pris un mot. On a pris un mot.
Et trois fois rien.
On est d'accord? On a pris un seul mot. Un mot qu'on a répété des milliers de fois et qu'on n'a jamais fait attention. Comme ça, on le répète, on le répète, on le répète. Un mot. Un mot. Comment, vous prenez tous les livres de Kabbalah, n'importe quel livre, comment, même de la prière, quand on parle de Dieu, l'infini. Un mot. Et quand tu prends ce mot, tu commences à réfléchir, tout de suite, tu comprends que tu n'as rien compris. Tu peux même dire que tu n'as pas compris, tu ne peux pas dire ça. On va aller un peu plus loin. Donc. Ve'ilu, aïta, ve'ilu, je suis en bas de la page 344. Ve'ilu, aïta, ishtal shiluta la matmeorin tsavor hublitin tsumim, rak, mesedera madrigot, mi madrigal madrigab derhila ve'aloul. Si, messieurs, vous êtes avec moi? En bas de la page 344, on va essayer de se concentrer.
344.
Oui. Hein? Donne un livre à monsieur.
Non, mais il a.
Prends un petit coup. C'est un livre.
Alors, on continue. Il ou Aïta. Vous me dites, hein? C'est bon? Il ou Aïta, Istel Chelut, Aolamot, Meoren Savor, Roulitin Tsumim, si la chaîne des mondes procédait de l'infini divin sans contraction, je vais expliquer tout de suite, hein. Ra, Kesedera, Madrigot, Umadrigal, Madriga, Beder, Hila, Vealoul.
On ne dérange pas?
Cependant, ça avait été une descente graduelle. Sans relation de dans une relation de cause à effet, lo aya aolam nivrak l'alkemosh et uata vipri nadvul vetachlit. Le monde n'aurait jamais pu être créé dans un état de limitation et de finitude comme il est maintenant. J'explique ce qu'il veut dire ici. C'est très 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 profond ce qu'il veut dire ici. Je dis comme ça. Comment le monde a été créé? On parle beaucoup dans la Kabbalah du système de l'enchaînement des mondes. Vous savez ce que c'est un enchaînement? Un enchaînement, c'est une relation de cause à effet. D'accord, c'est par exemple, il y a eu un Adam qui a conçu avec Rava, ils ont donné naissance à un enfant qui s'appelait Caïn, qui s'appelait Abel. Bon, après il y a une fille qui est venue, je ne sais d'où, d'accord. Ils ont conçu, donc c'est un enchaînement, d'accord. Enchaînement, enchaînement, enchaînement. Donc relation de cause à effet, relation, enchaînement, enchaînement. Jusqu'à la fin, on est là. On est aujourd'hui en 5178, exactement, on est là. Ok, ok. Alors il y a beaucoup de gens, quand ils s'imaginent la façon comment Dieu a créé le monde, ils disent c'est un enchaînement. C'est-à-dire, Dieu a démarré, c'était une lumière infinie. Et cette lumière infinie, ben, il y a eu un enchaînement. C'est-à-dire, d'abord, il a créé le monde, il a créé le paradis, après, il a créé, après, il a créé. Après, c'est descendu, 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 jusqu'à la fin, on est là. Sauf que te dit, l'admorazaka, une unité très forte. Il te dit, tu ne peux pas contracter l'infini. Parce que tu ne peux contracter que ce qui est définissable. On est d'accord? Par exemple, ici, j'ai une assiette. Cette assiette, elle occupe un diamètre de combien? D'accord? 20 centimètres. Je peux la contracter. Pourquoi je peux la contracter? Parce qu'elle est définie. Elle occupe un espace. Comme elle est définie, elle occupe un espace, je peux essayer de contracter cet espace. On peut contracter. Je peux en faire un cube avec ça. Je peux faire un cube. Vous savez que la matière, on peut la contracter. Mais pourquoi je peux la contracter? Parce qu'elle est définie. Mais si tu me dis que Dieu, dès le départ, il crée le monde et que ben, il est là, il crée le paradis, après, etc. C'est pas parce qu'on descend dans les mondes que tu arrives à un monde comme on est aujourd'hui. C'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas contracter l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on parle dans les livres de Kabbalah d'une notion qui s'appelle le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzoum? Tzimtzoum, c'est une contraction. Dans laquelle, alors, pour reprendre, ça, on va développer un peu plus loin. En fait, ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement un enchaînement. C'est qu'à un moment, Dieu, il fait une vraie contraction qu'on appelle un Tzimtzoum. Au point que ce qui se passe après n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Nous, on est après. Et ce qu'il y avait avant, on est incapable de le comprendre. Je vais vous donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Là, on touche à des notions très profondes de Chassidut. Je pense que vous êtes en état de comprendre, on est au chapitre 48, donc normalement vous êtes en état de comprendre. Il n'y a pas de problème, sinon on répétera autant de fois qu'il faut. On va prendre l'exemple d'un maître qui enseigne à un élève. Okay? Le maître, il essaye d'expliquer quelque chose à l'élève. Donc on a ici une relation. Une relation, hein? Une transmission. Une relation entre un maître et un élève. Le maître essaye de convoyer, de transmettre une idée à l'élève. Des fois, l'élève n'arrive pas à comprendre. Parce que l'élève, son cerveau n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que fait le maître lorsqu'il voit que l'élève n'arrive pas à comprendre? Exactement. Vous essayez d'expliquer quelque chose à votre fils, vous voyez, il comprend pas quand tu lui parles. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas, c'est un khmar, laisse tomber. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis non. Tu dis peut-être que j'ai tapé trop fort. On va essayer de contracter l'idée. On va essayer de descendre un petit peu. Donc on va descendre. Mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais descendre finalement? Je vais essayer d'enlever un maximum de détails et de garder la colonne vertébrale de l'idée. Parce que quand un adulte il parle, il y a beaucoup de détails. Des fois, l'enfant il peut se perdre dans les détails. Donc je dis, écoute, je vais essayer d'enlever un maximum de détails, je vais garder la base, et je vais essayer d'expliquer à l'enfant le concept. Par exemple, si je vais expliquer, comme c'est expliqué en Chassidut, si je vais expliquer à un enfant que Dieu c'est bon, je vois qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est de croire que Dieu c'est bon. Quoi, Dieu il se mange, etc. Alors, je vais donner un exemple. Je dis, regarde, tu vois le bonbon, tu aimes le bonbon, c'est bon le bonbon. Ben, il comprend, quoi. Il comprend le concept de tout ce qui est bon. Je dis, ben, imagine-toi que Dieu c'est bon. Oh. Mais là, qu'est-ce que je viens de faire quand j'ai parlé à l'enfant? J'ai pris un concept et je l'ai réduit, je l'ai adapté. Ça, c'est ce qu'on fait entre hommes. Entre hommes, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'un concept ne passe pas, on l'adapte. Cependant, pourquoi je réussis à adapter n'importe quelle idée à mon enfant? Parce que dès le départ, mon idée était finie. Donc, comme c'est un élément qui est fini. Donc automatiquement, je peux adapter le fini pour un fini. Moi, je suis un être fini. Mon enfant est un être fini. Mon élève est un être fini. Donc si je vois qu'on n'arrive pas à converger les deux ensemble parce que mon élément est trop puissant par rapport au sien, ce que je vais faire, je vais adapter mon élément fini par rapport à lui. On est d'accord? C'est un principe. En physique, c'est comme ça. J'ai une énergie qui est trop forte. J'ai du 220 volts et lui, il prend du 5 volts. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais réduire mon courant. J'ai un transfo qui va réduire mon courant du 220 au 5. Pourquoi? Parce que le 220 est un élément fini, le 5 est un élément fini. Donc quand on parle entre deux éléments finis, on peut réduire, transformer, adapter de l'un vers l'autre. Mais si tu devais transmettre un message d'un élément qui est infini vers un élément fini, c'est impossible. Tu peux avoir le plus beau transfo, tu peux pas adapter l'infini au fini. Et c'est pour ça, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu a fait ce qu'on appelle le Tzimtzoum. Tzimtzoum, c'est une contraction. Une contraction, mais pas une contraction dans laquelle une simple réduction. Une contraction dans laquelle il s'est complètement effacé, et après laquelle il y a une nouvelle sorte de création qui s'appelle l'homme qui est créé, qu'on va développer votre chaîne. Ce que je veux montrer par ici, c'est pas juste pour nous perdre. C'est pour qu'on comprenne que Dieu nous dépasse très sérieusement. C'est pas Stam qu'il est plus fort que nous. C'est pas que moi je suis une fourmi et lui c'est Rambo. C'est beaucoup plus que ça. C'est qu'on peut même pas se comparer à lui. Comprenez? Si par exemple quelqu'un, monsieur Benita, je vous pose une question. D'après vous, quel est l'homme le plus fort sur cette planète? Donnez-moi un nom. Dites-moi ce qui vous passe par la tête. L'homme le plus fort sur cette planète.
Trump.
D'accord. Très bien, ok. Trump. Donc, c'est vrai, c'est les États-Unis, etc. Hein? Bon. Maintenant, évidemment. Maintenant, pourquoi vous dites c'est l'homme le plus grand? Parce que vous mesurez à lui. Tu dis, lui c'est un homme, vous n'avez pas le même âge que lui. Peut-être, je ne sais pas.
Bon. Ah, je suis plus vieux. Hein,
ah, plus vieux.
Je suis plus vieux, moi.
Bon, mais vous êtes les deux des êtres humains, vous avez les deux travaillé dans votre vie, d'accord, peut-être différemment. Bon, je peux me comparer. Lui, il est très grand, moi je suis petit, mais je peux me comparer à lui. Parce qu'on est dans la même, on joue dans la même ligue. Il joue très très bien, je joue moins bien, mais on peut se comparer. On te dit, quand tu parles de Dieu, même dire ça, tu peux pas. Tu peux pas dire, il est très grand. Ça veut dire qu'en vérité, et c'est très fort ce qu'on est en train de dire, même dire des mots comme Dieu est grand, je ne peux pas dire ça. C'est une erreur. Non, nous on le dit aussi. Après on le fait. On va faire la Mida tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans la Mida? Alors il fasse tout. On dit le Dieu qui est grand, qui est fort et qui est redoutable. Même dire qu'il est grand, c'est une erreur de le définir comme un grand. Parce que si tu le définis comme un grand, tu es déjà en train de le définir. Tu t'imagines quelqu'un de très grand. Tu dis, moi je suis petit, lui il est grand.
Peut-être qu'il aime ça, lui qu'on lui dit.
C'est une erreur. Seulement quoi? Seulement on n'a pas le choix. Comme nous sommes les êtres finis, et qu'il faut bien qu'on parle à Dieu, et qu'il faut bien qu'on parle à Dieu. Donc on essaye au maximum de nos capacités, exactement comme dit Yves, on essaye au maximum de nos capacités, on utilise notre cerveau pour essayer de définir pour nous qu'est-ce qui serait quelque chose d'énorme. Mais même dire le terme énorme, c'est pas bon. Parce que énorme, c'est déjà une définition. Or, Dieu est indéfinissable. Rappelez-vous l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Dès que le racisme de Fabringen, il a commencé à vouloir définir.
Quand on le définit
dans l'autre.
Finalement, c'est bien, on pourrait prendre une page blanche pour faire la Mida. On peut prendre une page blanche pour faire
Même une page blanche, c'est pas bon. Parce que la non-définition est déjà une définition. On n'a pas volé.
Donc on va rester.
On est bloqué.
On béatitude, on va rester comme ça et on va.
Non, parce que Dieu nous a. Alors tu as raison, c'est vrai. Il y a des gens qui te disent, moi je réfléchis pas. Le problème, c'est que c'est grave de parler comme ça. Je ne parle pas de toi, mais c'est grave de parler comme ça. Parce que ça voudrait dire que Dieu m'a créé un outil, Dieu m'a créé différent les animaux, Dieu m'a créé différent les autres êtres, il m'a donné un cerveau. Et ça voudrait dire que mon cerveau, je l'utilise pour mes affaires et pas pour Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu m'a donné de plus fort, de plus raffiné en moi, je l'utilise pas pour Dieu. Je dis, bon, je le comprends pas, laisse tomber, c'est mort. Le juge, je le fais pour lui. Ça veut dire que, en d'autres termes, vous imaginez ce que ça veut dire si ma religion, si pour respecter ma Torah et pour faire ma Torah, je le fais comme un gamin de 5 ans peut le faire. On dit, mais finalement, quelle différence entre ta Torah et la Torah d'un gamin de 5 ans? Les deux, ils font la même chose. Les deux, ils font Shabbat. Les deux, ils allument pas la lumière Shabbat. Les deux, ils mettent les tefillines. Enfin bon, je parle en théorie. Les deux, ils mettent les tefillines. Les deux, ils mangent kasher. On dit, est-ce que ton judaïsme se définit comme un judaïsme d'un enfant de 5 ans? Comme un enfant de 3 ans? Quand tu vois le petit enfant qui fait ça, tu dis, mais finalement, quelle différence entre lui et moi? C'est que moi, je dois avoir un judaïsme plus évolué. Donc, je dois essayer de me situer par rapport. Mais comment je vais me situer par rapport à Dieu puisqu'il me dépasse? Donc, vous voyez, quand on réfléchit à ça, déjà, on comprend que ça nous dépasse. C'est très important de comprendre ça, que ça nous dépasse. Très important de comprendre à qui on parle. Et de comprendre qu'on ne peut pas comprendre. De comprendre ces choses-là. Parce que quand tu comprends ça, automatiquement, quand tu lis la Torah, c'est une autre dimension. C'est pas tu lis, bon, je lis un livre qui est écrit par un rabbin, un grand rabbin qui s'appelait Moïse, bon, peut-être tu es d'accord, peut-être tu es pas d'accord, bon, il nous a parlé d'un Dieu. Non, quand tu réfléchis à ce chapitre 48, tu comprends tout de suite que normalement, même étudier la Torah, on devrait être incapable de le faire. C'est une chance que Dieu en a, que Dieu nous a donnée, qui nous a adapté l'infini dans le fini. La Torah est infinie.
Alors lui-même,
c'est un cadeau qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'on parle de matin de Torah. On se prépare au don de la Torah maintenant. Shavuot, c'est bientôt. C'est quoi le don de la Torah? C'est que Dieu a pris un élément qui est infini et il nous l'a adapté dans le fini. Ce qui est impossible. Mais si Dieu n'avait pas fait ça, on aurait été incapable d'étudier la Torah. On peut pas étudier la Torah.
Mais lui-même, il s'est défini.
Bah oui.
Dans la Haggadah de Pessah, quand il dit, il est descendu, berbodo ba'atzmo.
Non.
Donc c'est bien.
Monsieur Benita. Dans la Haggadah, c'est bien. Nous qui essayons de définir Dieu. Pas définir.
Quand il a dit, il est descendu, berbodo ba'atzmo, c'est écrit comme ça.
Ok. Donc, vous parlez de la Haggadah. Dans la Haggadah, on vous dit par exemple, Dieu dit, j'étendrai mon bras.
Il n'y a pas de bras.
Ou bien, Dieu dit, j'ai entendu la souffrance des Juifs.
Oui.
Ou bien j'ai vu la souffrance des Juifs.
Proximité.
Ça veut dire quoi? Il a vu, il a entendu, il a étendu son bras. Je viendrai vous sauver. Je viendrai. Il va venir, il va marcher, il a des pieds, il marche. C'est les images tout ça.
Il parle dans le langage.
C'est une image que Dieu parle dans mon langage parce que Dieu s'adapte à moi. Il sait que s'il me parle dans son langage, je suis incapable de comprendre. Même comprendre que je ne comprends pas, je ne pourrais même pas.
Mais quand il dit Hachem Eloheinu, Hachem Echad, il ne se définit pas?
C'est une très bonne question, mais le problème, c'est que c'est un très bon point, ça, l'unicité de Dieu. Parce que le problème est comme ça.
Chapitre 27.
Révisez vos classiques, c'est vous dire.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Chapitre 27.
Alinéa 2.
Non, tout le chapitre.
C'est que même dire que Dieu est un, c'est déjà une définition. C'est quoi un? Un, ça veut dire qu'il est un, qu'il n'est pas deux. Donc c'est déjà une définition. C'est-à-dire, peu importe quoi que je dise, je suis déjà un problème. J'ai déjà défini. Donc d'un côté, c'est important d'essayer de parler à Dieu et d'essayer de s'imaginer comme quelqu'un de grand, de fort, de redoutable, de puissant, d'énorme, de géant, de gigantesque, tous les termes qu'on passe par l'esprit. C'est important, ça. Mais d'un autre côté, autant on va donner ces définitions, autant on comprend qu'on n'a même pas commencé à le définir. C'est impossible. On ne peut pas le définir.
Comme définition, j'ai entendu l'être-temps.
C'est pas bon non plus, même ça c'est pas bon.
Un être-temps.
Oui, mais vous l'avez déjà défini. Vous l'appelez être.
Ben, l'être, ça veut dire que ça commence comme ça très souvent.
Vous savez, il y a souvent, dans les livres, ils vous traduisent Dieu par l'être suprême. C'est quoi un être ?
Je ne parle pas de l'être suprême.
C'est quoi un être ?
Non,
oui, mais est-ce que Dieu vit ?
Non, mais je ne le quantifie pas en suprême, tu vois, moi. Non, moi je parle de l'être.
Il veut dire suprême, c'est-à-dire quoi suprême? Il est haut, il est bas?
Le temps.
Suprême, c'est-à-dire qu'il est bas, voilà.
Mais c'est de la même façon dont...
Bien sûr. Comme tu demandes la question à un enfant, tu lui dis où est Dieu, qu'est-ce qu'il te répond?
Là-haut.
D'abord, il te répond en haut. Tout en haut, tu vois, en haut, là. Cherche au fond encore plus loin, tu vas trouver Dieu. Il y a une porte là-bas, tu toques à la porte, il y a Dieu.
C'est ça qu'il dit l'enfant. L'enfant, il dit, où est Dieu? Il te dit, le rabbi, il est partout. Où est Dieu? Il dit, le rabbi, il est partout.
Mais où est Dieu?
Mais où est l'être? Non, mais où est l'être?
C'est quoi l'être?
C'est une qualification, bon. mais sans fondement. C'est infini l'être. C'est infini l'être.
Alors, ce que veut dire l'admorazaken, on va avancer un peu dans les mots, parce qu'on s'approche de l'heure. Ce que veut dire l'admorazaken, on pourrait développer encore beaucoup, mais on aura l'occasion la semaine prochaine si tu veux développer. Ce qu'il veut te dire ici, l'admorazaken, il te dit la chose suivante. Il te dit, il faut que tu saches que, à part Dieu, tout est limité. Il va parler même du paradis.
Ouais, c'est normal.
Il donne un exemple. Regardez, on va lire ensemble. Il dit, par exemple, les sages nous disent, il y a un calcul qui est fait, je ne rentre pas dans le calcul maintenant, je suis au milieu de la page 345, il y a un calcul dans le Talmud, dans le traité Hagiga, qui dit, « Mais à Aretz la Rakia, ma'alar tafkouf shana. » Que de la terre au firmament, il y a une distance de 500 ans. Firmament, ça veut dire c'est le ciel. D'accord ? Il y a une distance de 500 ans. 500 ans de marche dans le moyen. Attendez. Maintenant, Uven, Chol Rakia, la Rakia. Le Talmud dit là-bas, entre chaque firmament, parce qu'il y a plusieurs firmaments, entre chaque firmament, il y a une distance, encore une fois, de marche de 500 ans. Vechen, Ovi, Chol Rakia, Varakia. Et l'épaisseur de chaque firmament est encore une fois la marge de 500 ans. Et des firmaments, il y en a à l'infini. Donc ça veut dire qu'on touche à l'infini, infini quantitatif. Ça veut dire que on définit concrètement ces définitions. C'est intéressant ce que dit Talmud. Pourquoi le Talmud te définit ça? Le Talmud, il aurait dû dire directement, il aurait dû dire, écoute, tu peux monter autant que tu veux.
Ça veut dire quoi 500 ans?
Ça veut dire que c'est une question que même les enfants posent. Tu crois que tu as envoyé une sonde? Tu crois qu'à un moment la sonde elle va arriver en haut, elle va dire ça y est, j'ai touché le fond? Jamais. Même si cette sonde elle va continuer encore pendant 200, 300, 500 ans, 1000 ans. On touchera jamais la fin. Ça n'existe. Attendez, deux secondes. On touchera jamais la fin. Alors pourquoi le Talmud nous parle de 500 ans? Pourquoi il dit 500 ans le firmament, et 500 ans entre les firmaments, et 500 ans entre le 1 et le 2, le 2, le 3, et continue à l'infini? Pourquoi il te fait ça le Talmud? Parce que le Talmud veut t'expliquer que même ce que toi tu appelles infini, comme la relation que tu as avec le ciel, pour toi le ciel c'est l'infini, ça reste fini. C'est du fini ça. C'est infini pour toi, parce que qui va marcher 500 ans?
On l'a délimité, là.
Exactement, on l'a délimité. Maintenant, pour moi, quand tu dis 500 ans, je dis, bon, 500 ans, j'y arriverai jamais. Mais concrètement, je l'ai défini. Le Talmud est en train de te dire que ce que toi, tu penses être illimité, concrètement, c'est limité, c'est défini. Et il donne un autre exemple. Il dit, si vous parlez, par exemple, du paradis. Va filou olamaba, ve ganeden el. Imaginons maintenant le monde futur. Ah, on dit le monde futur, là-bas, c'est infini, là-bas. On est dans le monde de la vérité. On n'est plus dans un monde fini comme nous. Même le monde futur. Et le jardin d'Eden supérieur. Mador Neshamot Tzadikim Agdolim. Imaginez la demeure des âmes les plus grands Tzadikim. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, Baba Sal. Imaginez-le, voilà, là-bas, les grands Tzadikim. Puis, là-bas, c'est top, infini, c'est là-bas. Top du top. Tu dis non? Et encore plus. Va'etzech le Maramalachim. Allez, même, parlons des anges. Ah, les anges. Eh, du Prinak, vous levez Tachlit. Tout le monde est limité et a un but. Pourquoi? C'est très simple. Parce que chaque chose dans le monde, même le Gan Eden, même le paradis, a une finitude. C'est quoi finitude? C'est-à-dire qu'il a un but. S'il y a un but, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Maintenant, la fin peut être très 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 loin. Elle peut être très 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 raffinée. Mais il y a une fin. Il y a un objectif. Tout un objectif. La seule chose, et je peux même pas dire chose, parce que chose, je me trompe déjà quand je dis chose, même élément, je peux pas dire. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots dans le vocabulaire humain. Il n'y a pas de mots pour définir ça. Le seul être pour dire, même ça, c'est pas une bonne définition, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, c'est Dieu. Comment on dit dans le Adonolam? Adonolam Asher Malar, Veteran Kol Etzion Nivra. On dit que Dieu a régné avant que toute créature soit créée. On dit Ve'u Aya, Ve'u Ove, Ve'u Yé, Petit Pharaon. Dieu, il a été, il est, et il sera dans la splendeur de la même façon. Tu comprends pas, mais ça veut dire quoi, il a été, il sera? Ça veut dire que tout le monde qui l'a créé, ça lui a rien changé. On dit, En loketz ve'en lo tachlit. En loketz ve tachlit. Il n'a pas de fin et il n'a pas de finitude. Ça veut dire quoi? On est incapable de comprendre ça parce que tout ce qu'on connaît autour de nous, prenez n'importe quelle chose, chaque personne, chaque être, chaque élément, tout ce qu'on a autour de nous a un début, un milieu, une fin. Tout, c'est comme ça. Même des êtres qui nous ont l'air infinis, que vous croyez qu'ils étaient infinis. Par exemple, vous prenez le soleil qui brille, c'est le même soleil qui brille depuis la création du monde. Mais le soleil, il est constamment en dégénérescence, constamment. Maintenant, étant donné qu'il est énorme, il faudra des millions d'années avant qu'il s'arrête. Bon, ma chère sera déjà là, mais il est en dégénérescence, tout est en dégénérescence. Ça veut dire qu'il baisse, bien sûr. Chaque créature dans le monde, il n'y a pas une créature qui n'est pas en dégénérescence. Comment il dit Rabbeinu Bechaye? Il dit comme ça. Il dit l'être humain, dès sa naissance, il commence à mourir.
Bien sûr, bah oui. Parce qu'il va faire
mort. Il va tomber sur la tête.
Ah oui, c'est un peu cru, hein. Bah oui. Dès sa naissance, il commence à mourir. On le voit dans la chair. La chair, elle est, au début, elle est toute fraîche.
Même aller plus loin, même dans la conception, elle commence à mourir.
Oui, bien sûr, vous avez raison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout dans le monde a une fin.
Un début, une fin.
Donc, c'est pour ça que l'Admour Hazaken te dit, il veut t'expliquer ici, tu dis, ne crois pas que quand tu iras au paradis, là-bas, tu toucherais à l'infini. Non. Ne crois pas que lorsque ma chair viendra, tu toucheras à l'infini.
Évidemment, on n'a pas compris ce que c'est l'infini.
Mais c'est très bien, si t'as compris que t'as pas compris, c'est bien.
Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir compris. Tu me parles d'un truc, mais finalement,
je vais te faire comprendre que t'as pas compris. C'est tout.
Je vais te faire comprendre que je n'ai pas compris.
Là, on pense qu'elle est illimitée, dans l'infini. Elle est limitée puisque nous avons tous l'essence de Dieu, c'est l'âme qui nous.
Oui.
Donc, elle est limitée puisqu'elle est ici-bas.
Évidemment, on va dire que l'âme a un aspect.
Ah oui, à un moment donné, elle est partie. Elle est rendue. On l'a catenassée, elle est enfermée dans
ce. Notre âme, ouais. Potentiellement, elle a en elle l'essence de Dieu, donc l'essence divine, donc elle est infinie. Mais concrètement, telle que notre âme s'exprime dans notre corps, elle a...
C'est une création divine.
Évidemment. En vérité, voilà, alors... oui. Alors, non, on a un paradoxe dans ce cas-là, parce que si c'est une création divine. Non, mais attendez, c'est une bonne question que vous posez. On va en parler aussi dans la suite. Vous entendez la question de Michel? Je vais essayer d'expliquer la question de Michel. Mais ça, il faudra un autre cours pour ça. Écoutez la question de Michel. Dieu est infini. Donc si Dieu est infini, tout ce qu'il crée doit être infini.
Bien sûr.
Parce que lorsque je crée quelque chose,
ce monde n'est pas infini.
Je comprends, mais c'est un problème, c'est pas normal. Ça. Je sais que moi je suis pas infini.
Vous avez parlé d'un projet.
Mais le projet, c'est un deux secondes, je vais aller plus loin que ça. Le monde, l'être humain, le monde, c'est Dieu. Donc si Dieu est infini, le monde aussi est infini.
Oui.
Alors comment ça fonctionne? Comment ça marche tout ça? Où on va comme ça? Vous voyez, j'ai pris qu'un mot là. Je vous ai pris la tête, ça fait une heure, sur un mot. On n'a pas fini encore, hein. On n'a pas touché le fond, on n'a même pas démarré. Non mais ça veut dire, j'ai pris un mot. Un mot qu'on répète et qu'on répète infini. Et tu vois juste, tu prends ce mot, un mot que tout le monde répète. Tu vas dire à un enfant, tu dis infini. Et quand on commence à réfléchir un peu, on se dit, mais c'est vrai, ça me dépasse. Même dire dépasser, je peux pas dire dépasser. Quand t'es en train de conduire, tu roules à 150 km/h, et que t'as une voiture qui t'a dépassé à 330 km/h. Elle m'a dépassé. Mais je peux me mesurer, elle. Lui, il roulait à 300. Moi, je roulais à 150. Je me suis mesuré, elle. Hein? Mais je me suis mesuré, elle. Même si c'est un avion de chasse qui est passé à Mach 3. Mais je me suis mesuré à lui. Moi, je marche à 5 km/h. Lui, il marche à 3000 km/h. Mais je me suis mesuré à lui. Là, imaginez qu'on arrête d'expliquer que Dieu, même te mesurer, tu peux pas. Je peux me mesurer par rapport au Gan Eden. Je peux me dire, ici je comprends comme ça, là-bas ils comprennent une compréhension beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profonde. D'accord, mais je peux me mesurer avec ça. Et là on te dit, Dieu, tu peux même pas commencer à te mesurer. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'infini. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est infini. Infini. D'accord ? Il est indéfinissable. Ok. On va réfléchir à ça, d'accord ?
Et on va dormir.
Et on continue ce
divorce. On va dormir.
Bon, on continue la semaine prochaine. Veine pratiut.
Merci Rabbi.
Bon, bah écoutez, on a rien compris.
David, je vais raconter une histoire.
C'est bon.
Une fois.
Non, t'as pas demandé de.
L'Admour Hazaken.
Je peux pas comprendre.
L'Admour Hazaken. Écoute l'histoire. Une fois, l'Admour Hazaken, lorsqu'il s'est rapproché de la Chassidoute, il a demandé l'autorisation à sa femme pour aller étudier chez le Magui de Meserich. Il a étudié pendant 8 mois chez le Magui de Meserich, environ. Il revient au bout de 8 mois. Son beau-père était furieux. C'était avec l'accord de sa femme. Son beau-père était contre la Chassidoute. Son beau-père était furieux. Son beau-père lui dit, alors, t'es parti 8 mois, t'as laissé ta femme? Il dit, ouais, j'ai demandé son accord. Elle voulait, m'a encouragé. Il dit, bon, très bien, t'as encouragé. Qu'est-ce que t'as appris là-bas? Beau-père et Léonard, il dit, qu'est-ce que t'as appris là-bas? Il dit, j'ai appris que Dieu existe. Alors, son beau-père dit, ah bon, ce que t'as appris? Il dit, on va appeler la servante. Il avait une servante à la maison, bon, à l'époque, c'était fréquent. Il lui dit, dis-moi, qui a créé le monde? Elle lui dit, c'est Dieu. Il dit, tu vois? Il dit, Dieu, qu'est-ce que c'est? Bah, Dieu, et voilà, Dieu existe, il y a un Dieu. Il dit, regarde, t'as laissé ta femme huit mois pour me répéter quelque chose que la servante sans aucune éducation connaît. Alors, le Morazaka, il a répondu comme ça. Il a dit, elle le dit, et peut-être elle le sait. Moi, je le comprends. Comprendre que Dieu existe, c'est autre chose.
T'as compris, Jean? Ce soir, dans mon lit, je veux comprendre. Je comprends.
Allez, à méditer.
Ah oui, chacun médite là où. Là où
merci, Rémi.
Ah oui. Il faut comprendre que Dieu existe.
Rémi, jusqu'où